Agathe, tu es là, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là malgré la tempête.
Ça fait plaisir.
Agathe, l'une des façons de rester accrochée ou du moins d'intéresser nos enfants à l'école, c'est le goût de la lecture, d'arriver à leur transmettre ça.
Tout à fait. Et dès un très jeune âge, là, même quand notre enfant a quelques mois de vie, c'est jamais trop tôt pour faire la lecture à son enfant. Puis ça a été démontré par plusieurs études que d'exposer notre enfant très tôt à la lecture, ça va faciliter son cheminement scolaire par la suite et puis même éventuellement prévenir des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture.
Est-ce que l'on sait si la lecture, et ça en bas âge, prépare l'enfant à son parcours scolaire?
Tout à fait. Ça le prépare en facilitant d'abord l'acquisition du langage. Ça développe le vocabulaire également. Ça bâtit la capacité d'écoute. Ça développe l'imagination, la créativité. Et puis, il y a certaines compétences clés, des compétences préscolaires qui sont des bons prédicteurs de la réussite plus tard au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Par exemple, un enfant qui connaît déjà le nom des lettres avant l'entrée à l'école, par exemple, connaître une quinzaine de lettres en majuscules et en minuscules, les reconnaître à l'écrit, c'est un bon protecteur, si on veut, contre d'éventuelles difficultés de langage écrit au niveau de la lecture et de l'écriture.
Et bien sûr, si on lit bien, on lit avec plaisir, l'écriture est facilitée.
Exactement. L'intérêt face à l'écrit, je dirais même que c'est la première graine à semer. Puis comment on fait pour donner le goût de la lecture à notre enfant très tôt? Je crois que c'est d'abord en servant soi-même de modèle à notre enfant. Si on montre à notre enfant que la lecture, c'est une activité qui est plaisante, qui est utile, qui est agréable, en lisant nous-mêmes en tant qu'adultes, en lisant avec notre enfant. Et puis c'est pas une action à l'occasion. On parle vraiment d'actions répétées qui font partie de la routine quotidienne. Eh bien, notre enfant, ça va lui donner le goût de lire et il va être amené à s'intéresser aux livres. Donc, c'est important qu'il puisse les toucher, les manipuler, qu'il puisse les explorer, y avoir accès à la maison, puis à une diversité de textes aussi, de livres.
Oui, et même d'inclure la lecture dans les petites tâches quotidiennes, lire une recette, par exemple, ou retrouver des lettres de son nom sur les écriteaux là, du magasin, ou ça peut être amusant pour lui.
Ça, ce sont des excellents exemples, en fait, parce que c'est pas toujours avec des livres, c'est aussi de profiter de toutes les occasions de la vie quotidienne, quand on va au supermarché, justement, ou quand on regarde des circulaires, on va au restaurant, on regarde le menu ensemble, on montre qu'est-ce qu'on va prendre, on pointe les lettres, on les nomme ensemble. Et puis, l'enfant va s'intéresser aussi spontanément, très souvent, aux lettres qui composent son prénom.
Ouais.
Donc, c'est pas rare qu'un enfant, déjà, avant même d'entrer à la maternelle, sache reconnaître les lettres de son nom.
Agathe, j'ai été étonnée de lire qu'environ le tiers des jeunes de la quatrième année du primaire ne rencontrent pas les exigences en lecture au niveau scolaire. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
En fait, c'est qu'il y a des élèves qui ont de la difficulté à lire, à écrire, et c'est pas nécessairement décoder des symboles. Quelqu'un peut avoir une lecture qui est assez fluide, mais il va avoir du mal, par exemple, à lire entre les lignes, à comprendre ce qu'il lit, à faire les inférences. Et quand on arrive au deuxième cycle du primaire, troisième, quatrième année, les textes auxquels sont exposés les élèves vont avoir beaucoup plus de sous-entendus, si on veut. Donc, les réponses ne vont pas nécessairement apparaître telles quelles dans les textes. L'enfant va devoir faire des inférences sur le pourquoi des actions des personnages, par exemple, déduire une émotion ou une fin possible à une histoire. Et ça, c'est des habiletés au niveau du langage écrit qui sont plus complexes, mais qu'on peut développer avant même de lire.
Ah oui. Bien, d'ailleurs, je vais revenir à ça parce que vous disiez, dès les premiers mois de notre enfant, on peut tenter de l'intéresser à la lecture. Avant un an, c'est possible de le faire. Et je tiens à le répéter parce que je pense que pour certains parents, on se dit « ben non, j'irai pas tout de suite vers ça ». Vous encouragez à le faire, Agathe.
Oui, parce qu'il ne faut pas non plus percevoir ça comme des tâches académiques avant le temps. Il y a des moyens de rendre ça plaisant, de rendre ça agréable. Par exemple, quand on va lire une histoire avec son enfant, on va créer une ambiance lecture, une ambiance qui est agréable. Au départ, l'enfant va associer le temps lecture à une période agréable avec son parent qui lui permet d'avoir toute son attention, un moment privilégié de détente, par exemple, avant le dodo. Et c'est vraiment toute cette ambiance-là qui va aussi procurer du plaisir à l'enfant et non seulement le livre.
Par la suite, on fait comment pour savoir si notre enfant, selon son âge, à les acquis de lecture ou de compréhension, c'est-à-dire vers 2 ans, qu'est-ce qu'ils pourraient être capables de faire, par exemple?
Oui. Ben, par exemple, un enfant en bas âge, qui a, disons autour de l'âge d'1 an, qui a du mal à exprimer le son que fait un animal ou nommer un animal dans un livre quand il voit l'image sur une illustration, ça pourrait prédire d'éventuelles difficultés au niveau de la lecture plus tard, parce que c'est possible qu'il ait du mal à traduire par un symbole graphique un son qu'il entend à l'oral ou à nommer le bruit que fait une lettre quand il la voit à l'écrit. Mm-hmm. Ou un enfant vers l'âge de 3 ans qui va avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage des couleurs, ça pourrait laisser penser qu'il aurait des difficultés d'accès lexical. Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la difficulté à accéder aux mots qu'on veut au moment voulu dans une situation donnée. Et des difficultés d'accès lexical, comment ça se répercute au niveau de la lecture et de l'écriture? Bien, en fait, ça va diminuer la vitesse de la lecture et puis la précision de la lecture aussi. Mmh. Donc, ça va jouer aussi sur la compréhension de texte.
Et tout juste avant que notre enfant entre en première année, il devrait être rendu où dans ses connaissances?
Donc, entre la maternelle et la première année, déjà à la fin de la maternelle, normalement, l'enfant connaît entre 15 et 17 lettres majuscules, minuscules. Donc, pas nécessairement toutes les lettres, mais il connaît d'abord le nom des lettres avant de savoir le bruit que font les lettres. Donc, il y a déjà des habiletés d'éveil à l'écrit qui sont présentes. On essaie autant que possible aussi que notre enfant ait déjà un intérêt face à l'écrit.
Ouais.
Et puis aussi une conscience de l'écrit, c'est-à-dire qu'il comprend le rôle des livres. D'abord, les livres ont une fonction qui est plutôt affective en bas âge, mais par la suite, ça va avoir plutôt une fonction qui va être
utilitaire
pour apprendre, pour s'informer, pour se divertir.
Oui. Bon, sans être alarmiste, là, on fait quoi si on a l'impression que notre enfant est peut-être pas rendu là? Est-ce qu'on attend avant son passage au parcours scolaire avant de consulter ou on peut le faire avant?
On peut le faire avant même l'entrée à l'école. Je crois que la chose à faire, c'est d'aller vérifier auprès d'un orthophoniste, de procéder à une évaluation au niveau du langage, vérifier s'il y a des difficultés particulières, parce que l'orthophoniste peut intervenir très tôt dans le développement pour stimuler le langage et puis préparer l'enfant avant l'entrée à l'école pour qu'il soit prêt et pour qu'il ait vraiment consolidé son langage autant que possible avant l'entrée à l'école à la maternelle.
Et on le sait, ces premiers mois, cette première année, ces premières années, là, c'est extrêmement important dans son amour de l'école et d'avoir envie d'y être et d'y rester.
Exactement. Souvent, les enfants qui commencent à lire là, vers la première année, ils vont avoir une image positive d'eux-mêmes en tant que lecteurs. Peu importe qu'ils aient des difficultés ou non au niveau de la lecture, c'est plus vers la deuxième, la troisième année où là, l'enfant qui a des difficultés commence à en prendre conscience et puis son image de lui-même va en prendre un coup. Et une fois qu'elle est bâtie, cette image de soi en tant que lecteur, elle est difficile à modifier.
Évidemment, lorsque l'on a des difficultés, on apprécie peut-être moins la lecture aussi.
Exactement. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Quand on a des difficultés au niveau de la lecture, on va fuir les situations où on doit lire. Et puis, on peut même essayer de faire passer ça pour une autre difficulté. Donc, l'enfant pourrait avoir des comportements dérangeants en classe, mais à la base, c'est pour pas qu'on pense qu'il n'est pas intelligent. Il préfère passer pour quelqu'un qui perturbe l'ambiance de classe.
Oui, parce qu'Agathe, les difficultés de lecture ne sont pas nécessairement toujours liées à un trouble d'apprentissage.
Pas nécessairement. En fait, c'est parfois parce qu'il n'y a pas nécessairement eu la stimulation nécessaire. Et puis aussi, bon, quand on apprend à lire, le principe alphabétique est essentiel. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est être capable de comprendre qu'à chaque lettre ou à chaque groupe de lettres qu'on appelle des graphèmes, il y a un son de la langue qui correspond. Donc, par exemple, pour les lettres CH, on sait que ça produit le son CH. Et parfois, ce principe-là est mis de côté un peu dans l'enseignement, de sorte qu'on privilégie ce qu'on appelle les mots étiquettes. On veut amener l'enfant à reconnaître des mots de façon globale. Ça, c'est pas suffisant parce que chaque fois que l'enfant va être exposé à des nouveaux mots, donc il va avoir de la difficulté à décoder ce qu'il voit. Mm-hmm. Donc, c'est important de s'y prendre la bonne façon aussi quand on enseigne la lecture. Donc, vraiment d'apprendre à décoder les graphèmes pour comprendre quel graphème donne quel son de la langue.
Mm-hmm. Est-ce que les garçons et les filles sont égaux devant la lecture?
Selon les études, pas tout à fait. En fait, on remarque qu'il y a un avantage du côté des filles, puis les différences qu'on note au niveau des résultats scolaires entre les filles et les garçons, on croit que ça réside beaucoup dans l'avantage en lecture qu'on observe chez les filles. Par exemple, les filles vont être portées à lire plus souvent et vont aussi démontrer une attitude plus positive de façon générale vis-à-vis des livres en comparaison aux garçons.
Mm-hmm.
Donc ça joue beaucoup sur les résultats scolaires parce que la majorité des apprentissages scolaires passent par la lecture. C'est pas seulement en français, c'est en mathématiques aussi, en histoire, donc dans la presque quasi-totalité des matières scolaires. Et puis un enfant qui a du plaisir à lire, qui aime lire, il a beaucoup plus de chances d'aimer aller à l'école et d'aimer apprendre et que ses apprentissages scolaires se fassent bien.
Mm-hmm. En ce sens, j'imagine qu'il ne faut pas trop encadrer les choix de lecture de notre enfant, c'est-à-dire que s'il a envie de lire de la BD, on a l'impression que c'est peut-être moins pertinent, mais si lui, il aime ça, on encourage le style littéraire qu'il apprécie.
C'est un bon point, exactement. Et puis, il y a eu un article récemment qui a été publié à ce sujet-là, comme quoi d'intégrer les bandes dessinées dans les écoles, ça pouvait amener les garçons particulièrement à développer une préférence pour les livres, à développer leur goût de la lecture. Et puis, c'est important, effectivement, de donner plusieurs choix à l'enfant, de ne pas nécessairement imposer un type de livre ou un auteur en particulier, de favoriser les choix, les échanges aussi en classe ou avant l'entrée à l'école, parler à l'enfant de différents types d'auteurs, de différentes collections, de différents types de livres, l'exposer à différents types d'écrits. Ça va vraiment être intéressant, puis lui donner une panoplie d'options pour découvrir quels sont ses styles à lui de lecture.
Mm-hmm. Maintenant, des petits trucs. On en a parlé tantôt, là, par exemple, trouver les lettres de son prénom dans des livres ou dans des écrits là, que l'on verrait autour de nous. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'inclure le plaisir de la lecture, le plaisir des mots dans le quotidien de notre enfant?
Oui. Par exemple, quand notre enfant est à l'âge préscolaire, quand on lui lit un livre, on peut ne pas nécessairement toujours lire chacune des pages de façon traditionnelle, si on veut. On peut demander à l'enfant de lui-même nous raconter l'histoire, surtout si on lui a déjà lu auparavant, et puis intégrer, par exemple, des marionnettes, des peluches, créer un auditoire lorsque l'enfant va raconter l'histoire qu'il connaît. On peut également changer la voix des personnages, rendre ça ludique, se déguiser, mettre des costumes. Et puis, on peut faire des bricolages, nommer les différentes lettres qu'on découpe. C'est vraiment infini. Je crois qu'il faut laisser beaucoup de place à la créativité. Et puis, partir des intérêts de l'enfant, donc par exemple, s'il s'intéresse aux automobiles ou à tel type de jouets, on va partir de ces intérêts-là pour créer des activités de lecture. Ça peut être même aussi banal que lors du déjeuner, on va regarder la boîte de céréales, mm-hmm, et puis demander à l'enfant, ben je crois que tu peux trouver les lettres de ton nom sur la boîte, est-ce que tu les vois? Ou disons qu'on a une soupe à l'alphabet ou des céréales avec des lettres, on peut faire une blague et puis, ah, mange pas mon nom, par exemple, ou trouve pas les lettres de mon nom, et tout à coup, il va avoir le goût de les trouver. Puis,
oui, oui, oui. Donc, toujours le volet ludique, je l'entends bien, ça.
Tout à fait.
Bon, je lisais également dans vos documents, vos différents documents, Agathe, pouvoir trouver des mots qui riment. Ça peut être un acquis important chez notre enfant.
Tout à fait. Être capable de dire si deux mots riment ou compter le nombre de syllabes dans un mot, par exemple, souris, ami, ce sont deux mots qui riment, composés de deux syllabes. Être capable de nommer plusieurs mots qui commencent par un son donné. Par exemple, nomme-moi des mots qui commencent par le son A. Donc, ce sont des tâches qui semblent banales, mais en fait, ça développe la conscience phonologique. Et la conscience phonologique, c'est l'habileté à jouer avec les sons de la langue, à jouer avec les syllabes, les unités qui sont plus petites à l'intérieur du mot. Et ça, c'est un des meilleurs prédicteurs aussi pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture plus tard. Un enfant qui a développé une bonne conscience phonologique va souvent avoir plus de facilité à lire et à écrire.
Maintenant, si l'enseignant de notre enfant note une difficulté de lecture, comment on peut collaborer avec l'enseignant?
Bien, c'est très important qu'il y ait une communication régulière entre les parents et l'enseignant. Donc, on peut ne pas hésiter, en fait, à poser des questions. Qu'est-ce qui est difficile pour l'enfant? Est-ce que c'est de décoder les symboles? Est-ce que c'est de reconnaître certaines lettres? Est-ce qu'il y a des sons en particulier sur lesquels on pourrait mettre l'accent à la maison quand on va lire des histoires avec notre enfant? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la compréhension de texte qu'il y a des défis pour notre enfant?
Okay.
Parce que ce sont des difficultés qui sont très différentes. Donc, je dirais, c'est de comprendre avec l'enseignant, lui demander regarder où sont les difficultés et vraiment travailler ensemble pour vraiment réinvestir à la maison ce qui est travaillé en classe. On peut aussi demander à l'enseignant sur quel thème on lit présentement en classe, de façon à aller chercher d'autres textes à la maison, sur Internet par exemple, ou dans d'autres ressources, où on va permettre à l'enfant de consolider ses apprentissages sur le thème qui est vu en classe.
Oui, c'est très intéressant ce que vous amenez parce que la lecture, ça a plusieurs volets. Ça se peut que notre enfant ait de la difficulté, bon, pour la compréhension, mais pas pour autre chose. De poser des questions, de collaborer avec l'enseignant, c'est précieux pour tout le monde, pour la famille, pour l'enfant.
Tout à fait.
De très bons trucs, Agathe. Bon, maintenant, en terminant, c'est la semaine de la persévérance scolaire.
Oui.
De là, votre venue ici, Agathe. C'est quoi les enjeux de cette semaine-là?
En fait, c'est très important parce que le décrochage scolaire, ça a des impacts pour tout le monde. Et c'est important pour tout le monde. On ne parle pas seulement des élèves qui sont en classe, on parle aussi des élèves qui ne sont pas encore à l'école, donc des enfants à l'âge préscolaire. On s'adresse aussi aux parents des enfants parce que je crois que c'est pas seulement... Oui, les élèves doivent persévérer, c'est certain, mais je crois que c'est aussi les parents des élèves, les adultes significatifs qui les accompagnent, qui doivent persévérer. Donc, c'est aussi d'encourager les parents à rester auprès de leurs jeunes, les accompagner dans leur parcours scolaire, d'être présent. Et puis parfois, on peut se sentir démunis comme parents, surtout quand notre enfant a des problèmes d'apprentissage, des échecs scolaires. Et puis c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il y a une panoplie de ressources qui existent pour aider les parents, aider les enfants. Et puis vraiment les encourager aussi à demeurer à l'affût de tout ce qui se passe à l'école. Et c'est pas parce que l'enfant ne parle pas de ce qui se passe à l'école qu'il n'y a pas de problème nécessairement. Donc c'est vraiment rester aux aguets, communiquer avec l'équipe, les différents intervenants en milieu scolaire et puis se préoccuper de tout ce qui se passe dans le milieu scolaire pour notre enfant.
S'intéresser. Mais je me mets dans la peau, Agathe, d'un parent qui aurait lui-même vécu des troubles d'apprentissage, des difficultés à l'école et qui appréhende un petit peu ce passage-là à l'école de son enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer s'ils se sentent un petit peu inquiets pour ce parcours-là?
C'est une excellente question. Moi, je dirais que ce serait de discuter avec l'intervenant auquel ils ont accès. Si l'enfant est déjà à l'école, ce serait de discuter avec l'enseignant, avec les autres professionnels, par exemple l'orthopédagogue, le directeur de l'école, et puis de faire part de cette inquiétude-là, de ne pas avoir peur de la nommer.
Ouais.
Parce que c'est sûr que quand nous-mêmes, on a vécu des difficultés, on craint que notre enfant vive les mêmes difficultés également. Et puis, il y a aussi différentes ressources extérieures. Quand on se sent pas outillé, par exemple, pour aider notre enfant à l'heure des devoirs et des leçons, on peut penser à des ressources comme Allo Prof. Si notre enfant est un peu plus vieux et puis qu'il se questionne par rapport à son choix de carrière pour plus tard, puis on veut l'amener à connaître une profession qui va ultimement le motiver à poursuivre à l'école, il y a aussi une autre ressource très intéressante qui s'appelle Academos et qui est un site web où les élèves peuvent avoir accès à plusieurs mentors dans différentes professions, où ils peuvent poser des questions sur un métier en particulier, sur à quoi ça ressemble une journée typique, par exemple, ou quel type d'études ça me prend pour arriver à tel domaine. Et puis ça, il ne faut pas nécessairement attendre le cégep pour ça. Déjà au secondaire, on peut commencer à intéresser les gens à une profession.
Excellente ressource, Agathe Pulan. On les glissera sur le site du CanalM. Même chose pour persévérancescolaire.com et pour votre clinique proaction.com. Agathe Pulan, orthophoniste, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Et merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.